Vous êtes entre les lignes, le rendez-vous de toutes les écritures sur Espace 2. Jean-Marie Félix, bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de l'auteur Jean-Bernard Vuillem. Soyez les bienvenus. Il a une soixantaine d'années, il vit à La Chaux-de-Fonds, où il exerce une occupation vitale pour lui, l'écriture. Écriture de romans, on en compte une demi-douzaine, de nouvelles aussi, de récits, dont certains possèdent une teneur autobiographique. Écriture d'essais ou de chroniques historiques, et pourquoi pas, de quelques petites proses et poèmes en passage. La bibliographie de Jean-Bernard Vuillem est particulièrement bigarrée, elle dénote une belle curiosité. Et notre homme s'est aussi porté un regard acéré sur l'écriture des autres. Il se fait régulièrement critique dans différentes revues littéraires et dans le supplément culturel du quotidien Le Temps. Aujourd'hui, il publie aux éditions Zoé un texte de fiction intitulé « Monsieur Karl et compagnie », une parution qui valait bien une invitation en direct entre les lignes pendant près d'une heure. Bonjour Jean-Bernard Vuillem.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aurez peut-être remarqué au passage la prudence avec laquelle j'ai nommé Monsieur Karl et compagnie. Je n'ai pas parlé de roman parce que c'est une particularité dans ce qui pourrait être apparenté chez vous dans votre œuvre à des romans. La mention roman n'apparaît jamais, ni sur la couverture, ni sur la quatrième, ni sur la page de garde. À se demander si c'est une coquetterie de votre part ou de votre éditrice, Caroline Couteau.
Non, ce n'est pas une coquetterie de ma part. Il y a certains textes qu'on peine à nommer. Ça toucherait plutôt la partie de mon œuvre qui n'est pas à proprement parler liée à la fiction. Ça serait Les Assis, par exemple, qui est un livre qui raconte toute l'histoire du siège, depuis le trône jusqu'au siège éjectable, par exemple. Qui n'est pas à proprement parler de l'histoire, qui n'est pas à proprement parler de la sociologie, qui n'est pas à proprement parler de l'ethnologie, qui s'apparente à la littérature, mais qu'on ne peut plus nommer, qui serait un essai, mais qui n'est pas tout à fait ça. Alors là, il y a une difficulté réelle, c'est un genre difficilement classable, donc hors genre.
Justement.
Par contre, les fictions, en général... peuvent être qualifiés soit de récits, soit de romans. Mais Monsieur Karl et compagnie, je pense que ça serait plutôt un roman dans la mesure où c'est tout de même pas un reportage d'envoyé spécial dans ce
monde. Donc vous m'autorisez le terme roman, même s'il apparaît nulle part dans votre livre.
Oui.
On trouve souvent, Jean-Bernard Vuillem, dans les notices biographiques qui vous sont consacrées, le terme écrivain inclassable. Vous venez de prononcer le terme vous-même. Ça vous réjouit?
En tout cas, ça ne me dérange pas. Ça n'a jamais été mon rêve d'être classé quelque part. Une fois qu'on est classé, la question est d'une certaine manière réglée, n'est-ce pas? Donc moi, ça ne me gêne pas d'être inclassable, mais je veux dire, je ne tiens pas non plus dans mes démarches à être inclassable. Si on me considère comme inclassable, ben, c'est comme ça, quoi. Ça ne me dérange pas. En tout cas, la partie... Ce qui peut-être est assez particulier encore que certains auteurs traitent à la fois de fiction et puis ont une part d'essai. Je pense à Étienne Barillet, par exemple, qui a quand même aussi une production de fiction. Mais on est plus clairement dans l'essai. Mmh. On est plus clairement dans l'essai. Donc ce qu'il y a peut-être de particulier avec mes livres, c'est qu'il y a vraiment un fil fiction et puis il y a un fil qui est assez proche. Dans le fond, il y a quelque chose qui lie tout ça. Mais on n'est pas dans la fiction. Par exemple, j'ai écrit un livre sur Suchard. Des fois, on est près d'un reportage un peu fantasmé. On est dans une réalité avec une description presque clinique de la réalité, ou bien meilleure pensée des abattoirs, ouais. Par exemple.
Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds.
Ouais, voilà, le fil. Donc, j'ai fait une investigation vraiment historique, sérieuse sur le lieu. Et puis après, de l'histoire surgissent des personnages, surgissent une fiction. On va même faire de la science-fiction après, puisque ces abattoirs devaient devenir un casino. Enfin, ils faisaient partie avec cette belle symbolique de l'abattoir qui n'est plus viable, si on peut dire, et qui se transforme, qui devrait se transformer, au grand désir des autorités, parce qu'ils ont ce bâtiment sur le dos qui est historique, ils savent pas qu'en faire.
Des abattoirs qui deviennent casinos.
Qui deviennent casinos, c'est
science-fiction, ça.
Mais ça, c'est une réalité, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je traite ça, et pour moi, c'est clairement de la littérature, mais il y a un moment donné où il y a un passage de l'histoire presque à la science-fiction. Comment appeler ça? Je sais pas.
Il y a un regard chez vous d'ethnologue et de journaliste. D'ailleurs, vous avez commencé votre carrière professionnelle en tant que journaliste à l'Impartial ou à l'Express, je ne sais plus.
Enfin, oui, peut-être à l'époque, les deux. À l'époque, l'Impartial, hein, c'était encore deux journaux, disons, différents à l'époque, même passablement rivaux.
Donc vous avez toujours su concilier l'écriture journalistique et l'écriture d'investigation ou la fiction?
Écoutez, j'ai commencé le journalisme, moi, dans l'idée d'écrire, d'assouvir une curiosité que je n'ai pas d'ailleurs terminé d'assouvir, quoi. Je pratique le journalisme un peu sous d'autres formes, disons, maintenant, mais c'est un métier que j'ai jamais, je n'ai jamais tourné le doigt à ce métier parce qu'il permet de voir des gens de milieux extrêmement différents. En tout cas, quand on a un côté avec quelques sujets de prédilection, mais quand on a un côté quand même généraliste dans ce métier, ça permet vraiment de traverser les mondes. Et les univers sont assez clos. Les univers professionnels sont assez clos. Quand on est dans un monde d'assurance, on a affaire à des gens qui ne voient la vie qu'à travers le monde des assurances.
Alors là, vous faites directement allusion à votre dernier roman, Monsieur Kerr, qui devient médiateur dans une grande compagnie d'assurance. Mais vous vous souvenez, Jean-Bernard Vuillem, on va encore rester un petit peu dans votre passé, au cours de ces années 70, comment vous en êtes venu à publier votre premier ouvrage de fiction?
Par obsession, parce que...
Vous êtes un obsessionnel.
Je suis un obsessionnel de l'écriture et de la publication. J'avais le sentiment que mon destin, ma volonté était d'écrire et donc de publier, donc d'exister en tant que personne dans le monde par l'écriture. Donc mon premier ouvrage qui s'appelait Souffreur, La Tour intérieure,
paru aux éditions du Sauvage en 1979.
Oui,
vous avez
absolument.
Bonne mémoire.
Livre qui avait toute une histoire, qui avait donné lieu à beaucoup de polémiques. Bien sûr, quand je le regarde aujourd'hui, je ne l'écrirai probablement plus tout à fait de la même manière, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui était posé, qui était quand même assez dissonant dans le paysage littéraire roman à l'époque.
C'est une sorte d'enquête, cette tour intérieure, autour d'une tour expérimentale où les habitants seraient réduits à des êtres captifs, anonymes, incapables d'en sortir. Pour vous, c'est une sorte d'œuvre matricielle. On y trouve déjà des thèmes qu'on va retrouver dans votre œuvre ultérieure, c'est-à-dire l'identité, la question de l'identité, de l'enfermement, et puis cette veine burlesque aussi qui vous caractérise.
Oui, et puis le lieu en tant que matrice de l'histoire. Le lieu dont émanent les personnages, le lieu qui façonne les êtres, mais le lieu qui est lui-même le produit du travail des gens.
Et le lieu clos.
Alors le lieu clos, dans la tour intérieure, on est vraiment dans un lieu clos. Mais c'est vrai qu'on retrouve plus tard des lieux ouverts sur la mer, mais l'île, par exemple... les Malouines, qui a donné lieu à une île au bout du doigt, et puis avant le carnet des Malouines, c'est pas un lieu clos, parce que par définition, évidemment, une île est ouverte sur tous les vents, et
mais
sur
vous-même,
Dieu sait
s'ils
sont puissants.
Lorsque vous avez séjourné aux Malouines pendant quelques mois, vous vous êtes
mais
trouvé quand même dans
quand même
une situation
un monde
claustrophobie.
Oui, une île est quand même un monde clos, surtout si elle est petite, en parlant des Malouines, avec une population qui dans le fond reproduit une Grande-Bretagne mythique qui n'existe plus dans l'amour de son libérateur, qui était en l'occurrence Madame Thatcher. Ça produit un monde quand même assez fermé, des gens assez fermés dans leur propre mythologie, en contraste à l'extraordinaire ouverture du paysage.
Vous regardiez les habitants des îles Malouines avec beaucoup d'amusement et on retrouvait aussi quelque chose qui parcourt toute votre œuvre, c'est votre veine burlesque. Veine burlesque que vous avez traîné avec un personnage qui date lui aussi du tout début des années 80, c'est Pléthore. Pléthore, à l'origine, c'était un recueil de nouvelles.
C'était un recueil de nouvelles, et puis ensuite ça a été un roman.
Ouais.
C'était un personnage, la création d'un personnage qui avait pour moi pour fonction d'explorer la réalité, mais il pouvait le faire lui-même en échappant aux lois de la vraisemblance. Donc c'était assez ludique hein, pour moi de promener ce personnage dans diverses histoires, diverses situations un peu limites. Bon voilà, à l'époque aussi, c'était quelque chose qui sonnait un peu bizarrement hein, dans une littérature romande quand même assez empesée, quoi, globalement.
Consensuel, on peut oser le mot.
C'est-à-dire que je n'ai pas à critiquer la littérature romande.
Mais si, vous êtes critique, Jean-Bernard.
Non, mais je ne la renie pas. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même dans ce pays, dès qu'on arrive dans, on dirait parfois que le rire est interdit en littérature. Mais vous croyez qu'il est facile de, il s'agit pas de raconter des gaudrioles. Un livre qui ne rit pas est un livre triste. Mais le rire est pas toujours gras. Et puis le rire libère. Donc une littérature peut faire rire tout en étant sérieuse. On a parfois l'impression dans ce pays que qui rit n'est pas sérieux. Et je pense qu'une certaine difficulté de... Alors je parle pas d'espèce d'humour. Aujourd'hui, disons, on est parfois dans une espèce d'humour. Il faut absolument faire de l'humour. Hein. Comme on dit qu'il fallait faire l'amour dans les années 70, il faut faire de l'humour aujourd'hui. Alors on a des comiques qui surgissent bientôt, c'est-à-dire chaque talus. Ils ne sont pas tous très drôles parce que c'est très conventionnel. Hein. On les appelle des humoristes. Il y en a qui sont très bons. Mais il y a une espèce de mode aussi de du rire qui parfois n'est plus très drôle aujourd'hui. Précisément parce que ça devient trop à la mode. Mais la littérature, je pense, mais peut-être pas seulement la littérature suisse, mais quand même la littérature suisse a été assez empesée par des problèmes d'identité, de religion quand même. Il y a quand même le poids du protestantisme. Il y a des choses qu'on ne peut pas nommer parce qu'on nous tape encore un peu sur les doigts, quoi, je veux dire. Donc il y a, pour moi, il y a quelque chose aussi de libératoire et de jouissif dans le fait de d'oser des voix qui sont très sérieuses, parce que les thèmes traités, l'angoisse existentielle, elles sont là.
Et c'est ça qu'il y a sous votre humour, justement, et sur votre sens du burlesque.
Je crois, oui, et je suis obligé
c'est
de
c'est un effroi d'être au monde.
Que, ben un peu, voilà, donc on s'en accommode par le rire, en quelque sorte, quoi. Il faut qu'on arrive à en rire.
Je reviens à Pléthore, ce personnage fondateur qui date de vos jeunes années d'écrivain, Jean-Bernard Vuillem. En lisant les aventures de Pléthore, j'ai eu le sentiment de me retrouver face à un Voltaire, à un conte voltairien aussi. Et puis pourquoi pas un Ionesco, et pourquoi pas un Kafka dans ce sentiment d'enfermement, mais aussi d'humour un peu grinçant. Ce sont des pères en écriture pour vous, ces noms que je viens de citer?
C'est des rapprochements que j'ai déjà entendus, qui ont déjà été faits sur mon travail. C'est vrai que, dit père, je sais pas, mais disons la littérature qui m'a profondément marqué et imprégné, ben il y a effectivement Kafka, il y a des classiques français bien sûr, hein, Flaubert, j'ai pas sauté par dessus, c'est clair.
Et puis difficile.
Maupassant non plus, d'ailleurs, qui a un côté un peu fantasque et un peu fou, mais c'est plutôt germanique, c'est plutôt Musil, c'est plutôt Thomas Mann. Et puis alors la légèreté des Italiens. J'ai adoré Calvino, par exemple, avec une légèreté, mais une légèreté qui est pas gratuite. Donc c'est un mélange de tout ça, quoi. On m'a dit aussi parfois que j'avais un humour juif. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais pourquoi pas.
Vous admettez quand même la comparaison?
Mais j'admets toutes les comparaisons. Sauf si tout à coup quelque chose me paraît vraiment totalement fou et aberrant. Mais dans la réception de par rapport à ce qu'on fait, je veux dire, on ne peut être qu'avoir un peu d'humilité, je pense.
Il y a un roman aussi que vous avez publié au début des années 90. Il est intitulé « Lucie ». Il y a une question qui apparaît dans ce roman et qui apparaît aussi dans d'autres romans que vous avez publiés antérieurement et après. C'est l'indépendance, l'émancipation du personnage par rapport à son auteur. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans ce Pléthore ressuscité qui est apparu en 2008, où ce personnage Pléthore, qui date du début de votre carrière d'écrivain, se rappelle à votre bon souvenir et demande à nouveau à exister. Donc il y a toujours une sorte de lutte, vous en tant qu'auteur, Jean-Bernard Vuillem, face à ces personnages qui prennent plus de place que vous et qui réclame une certaine indépendance, émancipation.
Oui, le personnage mais c'est presque un thème théologique derrière le jeu, bien sûr. Le personnage qui, à un moment donné, veut se libérer de son auteur, nous ramène une problématique quasi théologique, quoi. Comment vivre sans Dieu le Père,
le grand démiurge, écrasant,
sans le grand démiurge, et c'est vrai que ben voilà le personnage ben Pléthore, quand j'ai créé Pléthore, j'étais vraiment un très jeune écrivain avant 30 ans même. Après, je l'ai complètement oublié, je l'ai laissé tomber parce que je voulais faire d'autres choses. Et puis, il est venu me retrouver à l'aube de la soixantaine. Et puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait de moi? Enfin, tu m'as laissé parmi ces objets empoussiérés dans le Galta, m'a-t-il dit.
Pourquoi m'as-tu abandonné?
Et puis, je me suis senti coupable parce que, voilà, la culpabilité, ben, il y a beaucoup de culpabilité dans la littérature de roman. Ben, il y en a aussi. Je me suis senti tellement coupable que je l'ai remis en marche et puis j'ai essayé de le remonter, un peu comme on pourrait remonter un petit soldat qui est reparti. Et dès ce moment-là, j'ai un peu un regard d'entomologiste. En même temps que je l'anime, je m'interroge sur ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il devrait faire, et puis qu'est-ce qu'il veut que je fasse.
Dans ce roman que je citais tout à l'heure, Lucie, on trouve cette phrase extraordinaire. C'est l'histoire d'un écrivain qui est en panne d'inspiration, qui s'appelle Schutz. Et on trouve sur la première page cette phrase « Schutz doit inventer des personnages s'il veut avoir une chance d'exister ».
Oui.
Vous auriez pu parler pour vous, là ?
C'est possible, oui.
Jean-Bernard Vuillem doit inventer des personnages s'il veut avoir une chance d'exister ?
Je le crains.
C'est une crainte existentielle, ontologique.
Ben, c'est une crainte qui a fait que je suis ce que je suis et que j'ai écrit ce que j'ai écrit.
Mais écrire à travers des personnages, exister à travers des personnages de fiction, ça sent quand même un peu le paradoxe.
Oui, mais vous savez, Monsieur Carl et compagnie, pourquoi j'ai pas jeté ce manuscrit, puisque je vous disais avant que c'est un livre que j'ai commencé, je sais plus précisément, mais c'est années 80, plutôt début des années 80. J'ai jamais pu le terminer, je n'y arrivais tout simplement pas. Mais il y a des choses que j'ai écrites à cette époque que j'ai gaillardement jetées à la corbeille à papier parce que il faisait partie d'un apprentissage, mais voilà, il y a des trucs que j'arrivais pas à faire ou c'était pas ce que je voulais. Celui-là, je l'ai jamais jeté.
Je l'ai jamais jeté parce que sa
thématique
qu'il
est au cœur un peu de ce que vous disiez. Et quelle est la thématique? C'est la question de tout le monde. Je dis qu'est-ce que je fais dans le monde? Où trouver ma place dans le monde? Dans quelle fonction? Parce que c'est ça, quoi. Dans la société, il faut bien qu'on trouve une fonction dans laquelle on puisse être assez à l'aise avec soi-même pour l'exercer. Donc c'est cette question-là. Donc moi, ma fonction, ben, c'est de n'en pas avoir, et par conséquent, c'est d'être toujours dans le tout est toujours possible, et ce tout est toujours possible est précisément la littérature et le questionnement littéraire.
Alors justement, vous me tendez une perche magnifique, Jean-Bernard Vuillem. Il est temps maintenant de parler de manière plus approfondie de ce dernier roman qui paraît aux éditions Zoé, Monsieur Carl et compagnie. Son personnage central se nomme Georges Rognon, pour le faire déjà. Et d'ailleurs, il dit quelque part que si on ne met que l'initiale du de Georges, ça fait Géronion, Grognon. Donc ça peut-être que ça donne une certaine idée du personnage. Donc il s'appelle Georges Rognon, il a plus de 50 ans et c'est plein d'allant qu'il se rend à Gorgengrout. Gorgengrout, c'est une vallée brumeuse où s'est installée une grande compagnie d'assurance. Cette compagnie est appelée tout simplement La Compagnie. Georges a rendez-vous avec la directrice des ressources humaines pour briguer un poste à pourvoir, celui de médiateur. Et après un bref entretien, la directrice des RH lui affirme qu'elle l'embauche, mais elle lui fait une proposition tout à fait étrange. Et nous allons entendre la suite grâce à notre lecteur du jour, le comédien Franck Sommelet.
La directrice des ressources humaines fixait son médiateur et ses paupières papillonnaient follement. Elle se leva, poussa son hôte vers la sortie du bureau, promit que le contrat lui parviendrait encore durant la semaine et lui donna rendez-vous en fin de semaine, vendredi à 1 heure à déterminer, dit-elle, énigmatique. Sur le pas de la porte, elle lança cette étrange question. « Que diriez-vous de vous appeler Karl ? Monsieur Karl ?» Le candidat partit avec cette question qui lui tournait dans la tête. « Monsieur Karl, moi ? Monsieur Karl ? Et pourquoi Monsieur Karl ? Et pourquoi pas ? » Il avait tourné au moins 7 fois dans sa tête la question de s'appeler ou de ne pas s'appeler Monsieur Karl. Était-il encore temps de porter un nom si court et si voyant, alors qu'il ne rêvait que de discrétion et presque d'invisibilité? Jusqu'ici, il n'avait porté que des noms qu'il ne se rappelait qu'à grand-peine, et qu'il n'était jamais sûr d'orthographier correctement tant il lui semblait étranger à sa propre personne. C'étaient des noms d'emprunt, ou des surnoms, des noms d'artistes aussi, autant de noms qu'il avait portés avec plus ou moins de bonheur, identité pléthorique et périphérique. Il ne s'y était jamais attaché, et se sentait prêt à les jeter tous aux oubliettes pour ce majestueux monsieur Karl. Les noms qui ne sont pas barbouillés de terre et de sang ne pèsent pas davantage qu'une feuille emportée par le vent, songea-t-il. Les noms ne sont rien sans le poids d'une histoire familiale ou d'une intuition forte. Ils ne sont que des masques interchangeables n'attendant que le dernier baptême venu. « Je ne m'appelle pas, dit-il. Je suis appelé. » « Monsieur Karl !» Voilà un nom qui s'adapte comme un gant sur la main du destin. Parce que... Sitôt poussé la porte et franchi le seuil de la maison, il marcha à pas lents vers sa jeune épouse, envisageant simultanément que cette jeunesse devenait relative, épouse ainsi qualifiée à titre de comparaison avec le chiffre inscrit à son compteur d'époux, tout ce bric-à-brac en guise d'horloge dans sa conscience du temps, en allongeant le pas. Il la saisit enfin par le coude, sa jeune épouse, et lui dit tendrement « Que dirais-tu de vivre avec un monsieur Karl ?»
Entre les lignes, sur Espace 2, mon invité est aujourd'hui l'écrivain neuchâtelois Jean-Bernard Vuillem, auteur d'un récit qui fleure bon l'absurde, paru récemment aux éditions Zoé. Son titre, Monsieur Karl et compagnie. Alors Jean-Bernard Vuillem, on s'en aperçoit dans les premières pages du récit que vient de nous lire Franck Semlet. Monsieur Karl, alias Georges Rognon. Monsieur Karl est un nom d'emprunt qui est imposé au personnage par sa nouvelle directrice des ressources humaines. Dénommer quelqu'un pour le renommer avec un nom d'emprunt, ça paraît être une démarche extrêmement autoritaire.
Oui. Quand on naît, on nous nomme. Ouais. On ne nous demande pas notre avis. Et donc, Monsieur Karl, voulant devenir médiateur, ne peut pas faire autre chose qu'accepter le nom que lui donne cette compagnie qui veut l'engager. Ou bien il dit non. Et puis il renonce à cet engagement. Mais comme il s'agit pour lui d'un engagement inespéré, que peut-il faire d'autre que de devenir M. Karl ? D'autant qu'apparemment, il ne tient pas particulièrement à rester...
Georges Rognon.
Qui fait grognon, bien sûr. Si on a... Vous savez, ce grognon m'est venu, c'est... Vous voyez comme la réalité quand même est si proche de la fiction. Gamin, j'ai fait des petits boulots, comme beaucoup de petits gamins. Et à l'époque, on livrait des journaux. On allait apporter vraiment les journaux aux portes, on sonnait aux gens. C'était, enfin, je ne vais plus nommer les journaux, mais ils se distribuaient vraiment comme ça. C'est les gamins qui partaient avec leur sacoche en vélo. Et puis, une fois par mois, vraiment fallait encaisser l'argent. Et ce gros nom vient de là, parce que je me rappelle d'avoir vu ce nom à une porte et le G était un peu effacé. Et j'avais vraiment l'impression de sonner chez Monsieur Grognon, qui en plus, effectivement, avait une tête quand même un peu qui correspondait assez bien au nom affiché à la porte.
C'est donc un nom qui revient de loin, comme votre roman.
Voilà, mais oui.
Vous aurez, ben moi en tout cas, j'ai apprécié Jean-Bernard Vuillem, le double sens du mot nommé, parce que Georges Rognon, qui devient Monsieur Karl, est nommé au poste de médiateur, mais il est aussi nommé Monsieur Karl, on lui donne un nom. Et je me demande si finalement cette directrice des RH de la compagnie d'assurance n'agit pas comme un auteur, comme vous l'êtes vous-même, c'est-à-dire qu'elle elle prend ce Georges Rognon pour un pion, pour un personnage, et se permet de décider non seulement de son nom, mais on va s'en apercevoir aussi par la suite, de son destin au sein de l'entreprise.
Quelque
chose d'extrêmement autoritaire, comme je le disais tout à l'heure.
Il y a cette rencontre d'un homme à l'affût d'un emploi, et Dieu sait si un homme à l'affût d'un emploi est prêt à faire beaucoup de choses pour trouver cet emploi.
Parce surtout lorsqu'il en a plus de 50 ans.
Il en a besoin. Alors là, il est dans le personnage est dans le fond dans une espèce de quête ultime pour trouver un emploi, puisqu'on sait bien que au-delà de 50 ans, trouver un emploi aujourd'hui, c'est ce qui tient quand même un peu de l'exploit.
On devient des seniors à partir de 50 ans dans le monde du travail.
On devient des seniors de plus en plus tôt. Nous sommes des seniors.
Nous coûtons cher, mais nous avons de l'expérience.
Donc, c'est trouver un emploi vers cet âge-là est une sorte de chance extraordinaire. Donc on va pas bouder sa chance. Donc on va pas faire d'histoire parce qu'on nous rebaptise. On va pas faire et tout cela, mais évidemment d'une manière symbolique. Et tout de même, si on pense au sentiment d'appartenance, je dis pas qu'il est mauvais, pas du tout. Mais si on pense au sentiment d'appartenance des gens par rapport à leur entreprise, ils ne souhaitent rien de tel que de se sentir appartenir pour que leur travail ait un sens. La question, c'est de savoir jusqu'où on va. Alors Monsieur Karl, dans son désir de retrouver du travail, qui est pourtant quelqu'un d'assez lucide, je dis, il a plus l'enthousiasme du jeune homme. Ça, c'est tout le chemin que j'ai dû faire de cet ancien roman, de passer du jeune homme cherchant sa place dans le monde à un personnage, disons, qui a déjà un âge assez avancé par rapport au travail et qui joue sa dernière carte.
Parce que Georges Rognon, c'est un peu vous quand même.
Voilà. Georges Rognon, oui, bon, si on veut, il y a toujours un peu de l'auteur dans le personnage, quoi, bien sûr.
Ce qui apparaît comme un thème central quand même, Jean-Bernard Vuillaume, dans ses premières pages de Monsieur Karl et compagnie, c'est la notion d'identité fluctuante. C'est une question d'ailleurs qui est au centre, et de manière très récurrente, au centre de vos livres.
Oui, c'est la difficulté de le temps d'une vie, de trouver qui l'on est et ce que l'on doit faire. Je pense que c'est une question qui existe pour tout le monde. Il y a des gens qui y échappent. Qui échappent peut-être parce qu'ils ont déjà une place toute faite, en quelque sorte, et tant mieux. Mais alors, s'ils ne l'ont pas posé jeune, ils vont se la poser tard, souvent. C'est ce qu'on voit. Et c'est clair, si cette question m'anime et me... c'est pas pour rien, quoi, bien sûr. C'est lié à ma propre histoire, quoi, bien sûr.
En 2006, vous avez publié un texte, faut-il l'appeler roman, je ne sais pas. En tout cas, un récit à haute teneur autobiographique nommé le Fils du lendemain, où là, vous réalisez qu'à passer 40 ans, que celui dont on vous a dit qu'il était votre père biologique n'était pas votre père. Et là aussi, toutes les questions liées à l'identité, on imagine qu'elles explosent à la figure de celui qui s'adonne à l'écriture, notamment.
Donc c'est une question qui m'a occupé, je dirais, souterrainement, cette question de l'identité, puisqu'inconsciemment... je n'étais pas celui qu'on me disait être, génétiquement, bien sûr. Et puis une fois que cela s'est su, ben j'ai peut-être compris aussi un peu mieux pourquoi cette question me tenaillait de cette façon. Mais en même temps, au-delà de moi-même, c'est quand même la question de tout le monde, de tout être humain. Si on avait 36 vies, on aurait le temps de savoir qui on est, puis où on est le mieux, et puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Mais il y a quand même dans notre destin, dans notre condition de vivant, cette question pressante. C'est vraiment que fais-je, quoi. Et on ne peut pas vraiment y échapper à cette question, qui que l'on soit.
Je reviens à votre personnage, Georges Rognon devenu Monsieur Karl, Jean-Bernard Vuillaume, ce personnage qui vous ressemble un peu. Finalement, sur toute la longueur du roman, on apprend très peu de choses sur lui. On sait qu'il a plus de 50 ans, que c'est donc un senior. Il a épousé une femme un peu fantasque nommée Berthe, qui deviendra par la suite Carla. Et enfant, alors ça c'est une information extrêmement importante parce qu'elle constitue un fil rouge dans le roman. On apprend qu'enfant, il a vécu une tentative de bizutage, appelons ça comme ça, comme un profond traumatisme. Et c'est à peu près tout. Mais il faut dire quand même quelques mots de cette séance de bizutage qui est un profond traumatisme pour ce monsieur Karl.
Oui, un profond traumatisme, disons.
Si, si, moi je le perçois comme ça en tout cas.
Oui, moi je peux le voir d'une manière un peu plus amusante. Donc... Monsieur Karl, qui n'était encore que le jeune Georges Rognon, qui était enfant, sortant de l'école, arrive au bas d'un escalier, tombe sur une camarade d'école qui est plus grande que lui, qui est une redoubleuse, qui est un peu une cancresse, faut-il dire.
C'est joli comme terme, cancresse.
C'est joli. Mmh. Et puis qui tout à coup l'arrête, tend les bras et lui dit « Je te laisse pas passer si tu ne me montres pas ta guigui ». Voilà, c'est un mot qui existait, il est assez régional, probablement.
Il en existe de
mais
nombreux
tout le monde sait ce que c'est,
désigner
tout
cet
de suite.
Objet,
oui. La boîte régionale, il est universel, puisque ouais. Tout le monde sait immédiatement de quoi il s'agit. Et ce pauvre enfant, quand même, qui venait d'un milieu comme ça, très catholique, pour lui, c'était le diable qui l'arrêtait en pleine course. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il a pris la fuite, mais il était plus faible physiquement que cette grande fille. Donc il a eu très peur, il a couru, voilà, il a échappé, donc il s'est retourné, il a échappé au danger. Et donc cette question revient, c'est un des fils rouges, il y en a oui. plusieurs, mais c'est un des fils rouges du livre. Dans le fond, le personnage, dans le fond, a le regret. D'une part, il y a comme un double traumatisme, encore je n'aime pas trop ce mot traumatisme, il fait un peu, mais bon, il y a cette peur terrible, il y a cette fuite, il y a cette terreur, puis après il y a le regret. Il y a le regret
de ne pas avoir monté sa guigui.
Mais oui, mais bon Dieu, quoi, c'était quand même pas si terrible, qui l'amène parfois à agir complètement de manière inconsciente, puisque c'est cet épisode fait qu'il va parfois, quand il aurait pu la montrer sans problème, il y a des moments où il la sort complètement, il ne devrait vraiment pas le faire. C'est un des fils, disons. Et puis on comprend, dans le fond, voilà pourquoi il a ces comportements un peu étranges, dont il se rend compte d'ailleurs lui-même si tôt qu'ils arrivent, mais il peut, c'est trop tard, quoi, voilà. Ce qui est fait est fait.
Allez, on va passer outre cet épisode de la guigui de Monsieur Karl, anciennement Georges Rognon, parce qu'il n'y a pas que ça dans ce roman. J'aimerais qu'on entende un autre passage tiré de votre récit, Jean-Bernard Vuillem, Monsieur Karl et compagnie. Alors, on est le premier jour de travail de Georges Rognon. Georges Rognon a pris place dans le bureau du secrétariat général et il arbore un petit air satisfait. Et c'est donc toujours Franck Semlet qui nous fait la lecture de ce passage.
Il se cala dans son fauteuil et s'estima satisfait. Monsieur Karl avait trouvé sa place dans le monde, une place enviable dont il saurait se montrer digne. Son air de repli jusqu'au fond de la chambrette, 2 bons mètres qu'il pouvait parcourir sur son fauteuil à roulettes, lui permettait de se rendre invisible aux yeux de ses collègues. Contrairement aux autres collaborateurs du secrétariat général, le médiateur pouvait se montrer ou se cacher à sa guise. Devant lui s'étalait la généreuse surface du secrétariat général et 2 larges et hautes fenêtres découpaient un horizon dans le mur d'en face. Le médiateur pouvait embrasser tout le hall du regard. Déjà, il imaginait ses collègues plongés dans l'étude de leur dossier. P. Clark à gauche, S. Haas à droite, et sa position lui permettait aussi d'épier les 2 subalternes installés au centre du secrétariat, exposés à la vue de tous les directeurs. Clark, Haas, il lui manquait encore 3 noms. À mieux valait les connaître avant qu'ils s'incarnent. Monsieur Karl bondit de son fauteuil. À la gauche de S. Haas travaillait J. Jäger, juriste principal. Et encore à gauche, dans l'angle inférieur droit relativement au territoire du médiateur, L. Robinet, comptable principal. Enfin, dans l'angle inférieur gauche, officiait A. Gus, le 3e directeur. Monsieur Karl récita doucement tous ces noms nouveaux entre ses dents, l'un après l'autre, afin de les fixer dans sa mémoire. Il s'en gargarisait, s'en pourléchait, les répétait inlassablement dans son double désir de les savoir par cœur et de les voir bientôt prendre épaisseur humaine. Ses collègues, pourvu qu'ils soient sympathiques, se dit-il, amusants, amicaux. Dans un frisson d'angoisse, M. Karl entrevit une enfilade de jours, de semaines, de mois et d'années passées à vieillir dans sa chambrette. Alors qu'il était à la pêche à l'emploi, il avait pris le monde dans son filet, et maintenant le monde ne changerait pas davantage pour lui que celui d'un poisson tournant dans son bocal. Il était joli, le monde. Il y avait de quoi frétiller des nageoires. Que demander de plus ? C'était sa première pensée négative depuis qu'il s'était enfoncé dans la gorge en quête d'emploi, de sécurité et d'identité. Monsieur Karl s'en fit le reproche. Comment, à son âge, pouvait-il se laisser aller à croire que le monde aurait pu se montrer sous un jour encore plus favorable ? Revenu de nulle part, il avait trouvé une case à sa mesure, d'une manière franchement inespérée. Il aurait fallu être fou pour ne pas s'en contenter, s'en réjouir. Pourquoi faut-il toujours que celui qui vient de décrocher la Lune rêve aussitôt de la planète Mars ? En vérité, se dit-il, je ferais mieux de me mettre au travail. Assez rêvassé, au travail. C'était étrange d'éprouver l'urgence de cet impératif et en même temps de prendre conscience qu'il ignorait ce que la compagnie attendait de lui. Que faire ? Par quoi commencer ? Oui, que faire ? Installé derrière ce bureau ministre aux tiroirs vides, il les ouvrit les uns après les autres, et au plateau exempt de tout papier. Il n'y avait qu'un ordinateur, comme il se doit, un écran noir, d'un noir aussi opaque que la tâche que M. Karl aurait à accomplir, un clavier, et soudain il se sentit incompétent, dépassé, déplacé. Et il se mit encore une fois à ouvrir et à fermer compulsivement les tiroirs comme un voleur désespérant de mettre enfin la main sur un objet de valeur.
Entre les lignes, quelques échos d'une gymnopédie d'Éric Satie sur fond de sonorités laborieuses. Gymnopédie parce qu'on l'apprend en cours de lecture, Carla, l'épouse de Monsieur Karl, profite de la promotion professionnelle de son mari pour se remettre au piano et s'essayer à une partition de Satie. Jean-Bernard Vuillem est notre invité du jour. Il est venu évoquer au micro de Entre les lignes son dernier récit intitulé Monsieur Karl et compagnie. Il a paru aux éditions Zoé. C'est l'histoire d'un quinquagénaire, un peu plus, embauché dans une grande entreprise d'assurance en tant que médiateur. Je voyais très concentré Jean-Bernard Vuillem lorsque Franck Sommelet nous donnait un passage de votre livre en lecture. Quel effet ça vous fait d'entendre une voix certainement intérieure que vous avez pratiquée vous-même chez vous lorsque vous écriviez ce roman et proférée aujourd'hui, enfin proférée quand même avec l'intimité que oui. Permet le médium radiophonique.
Ben oui, j'étais très attentif parce que écrivant ces phrases, y avait des enjeux quand même formels pour moi importants. Dans ce récit, c'était notamment d'intégrer le dialogue aux phrases,
oui.
De pas faire ces éternels retours à la ligne pour dire bonjour, au revoir, vous avez bien dormi, moi aussi, qui m'ennuie souvent profondément, à la fois en tant qu'écrivain ou en tant que lecteur, ces pages de dialogue empilées, vains, qui n'ont pas de sens. Je voulais échapper à ça, ou donc mettre des dialogues très rares. Et puis il m'est apparu que, dans le fond, de toute façon, on parle, les gens parlent, donc que je voulais intégrer ces dialogues à la phrase, et même les pensées, parce qu'on vit avec des phrases qu'on prononce, mais on vit aussi avec des pensées. Et j'ai voulu intégrer tout ça. Donc ça, c'est l'enjeu à la lecteur. À la limite, le lecteur n'a pas à le savoir, mais pour moi, c'est un enjeu important. Donc j'étais très attentif à sa à sa lecture.
À la fluidité.
D'ailleurs, il lit très bien à la fluidité. Puis parce qu'il faut que ça s'enchaîne. Il faut pas qu'on bute. Il faut pas que ça soit pesant. Et puis j'ai l'impression quand je l'entends que ça fonctionne.
Alors justement, Jean-Bernard Vuillem, le fait fait d'insérer les dialogues dans la continuité du récit, le fait de revenir extrêmement rarement finalement à la ligne, il y a très peu de paragraphes dans ce roman, il me semble que cela donne une densité, mais une densité qu'on perçoit déjà sur la page, le côté graphique de la page. Et cela peut donner aussi, en tout cas c'est un sentiment que j'ai eu moi-même, un sentiment d'enfermement et de claustrophobie dans cette prose. Même si elle est extrêmement coulante et agréable à lire, on se sent presque enfermé dans ces pages qui sont extrêmement denses. Vous en êtes conscient ?
Oui, c'est une question que je me suis posée, bien sûr, puisque la conséquence de ce choix formel que je décrivais avant, ben c'est fatalement qu'on a graphiquement un texte qui respire peu, graphiquement, apparemment, et qui donc peut avoir un effet un peu repoussoir, parce que c'est très dense, parce que... mais je me suis dit, voyons, vous savez, moi je gagne ma vie quand même beaucoup, un peu par les livres, mais je vous étonnerai pas en vous disant que je gagne pas ma vie avec la littérature. Donc j'écris pour toutes sortes de gens, pour toutes sortes de besoins, et je passe le plus clair de mon temps dans ce travail-là à produire des textes que les gens lisent sans s'apercevoir qu'ils lisent, c'est-à-dire à leur faciliter le maximum, au maximum les choses, à les prendre par la main jusqu'au moment où ils se disent « Quelle horreur, je suis en train de lire !» Ou « C'est incroyable, je suis en train de lire !» Là, je suis dans une autre démarche, je suis dans une démarche d'écrivain, je me suis dit non, finalement, les gens qui prendront ce livre sont des gens qui aiment lire, sont des gens que je n'ai pas à les prendre par la main puis à mettre des paragraphes pour leur faire plaisir ou pour leur faciliter l'entrée. Mais je suis conscient de ça. Néanmoins, je crois que une fois qu'on entre, je crois qu'on respire, ça respire tout à fait normalement, quoi.
Georges Rognon a parfois quand même du mal à trouver sa respiration au sein de cette nouvelle entreprise d'assurance, compagnie d'assurance, dans laquelle il devient le médiateur. Son problème essentiel, c'est qu'il ne sait pas quelle place tenir. On l'a nommé médiateur, mais il n'a aucune idée de ce que cela signifie, être médiateur au sein de cette entreprise.
Oui, c'est ça qui est terrible pour lui. C'est vrai, parce qu'il y a une situation que beaucoup de gens connaissent et qui n'est pas désagréable, c'est d'être surchargé, débordé de travail. C'est forcément un peu pénible, mais au moins, les gens, là, se demandent pas qu'est-ce que je fous ici, quoi. Je veux dire, ils sont fatigués, ils savent plus donner de la tête, ils sont stressés, etc. Mais la situation de devoir trouver ce qu'on a à faire dans une entreprise où on vient d'être engagé avec un poste important, c'est quelque chose, dans le fond, de très angoissant qui nous ramène, dans le fond, à une situation existentielle.
Ben voilà.
Et il existe, évidemment, des fonctions dans lesquelles les gens... C'est ce qui nous mène souvent, d'ailleurs, à des administrations absurdes, à des travaux complètement idiots, où on se demande même plus ce qu'on fait.
Il arrive que les hiérarchies s'élargissent par le haut, parfois.
Il y a des gens qui arrivent à des niveaux hiérarchiques tels qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux. Et ils produisent un travail qui a l'air très odieux, mais qui, dans le fond, est le produit d'une imagination qui répond au désœuvrement.
Allez, on va se faire un dernier petit plaisir de lecture, si vous le voulez bien, Jean-Bernard Vuillem. À propos de médiation, ce n'est qu'au deuxième jour de travail que M. Karl va trouver matière à exercer sa fonction de médiateur. Une échauffourée entre une jeune secrétaire très séduisante et une autre âgée et acariâtre va lui donner l'occasion d'exercer sa mission. Et c'est là que les choses vont mal tourner et prendre un caractère franchement absurde. On n'en dira pas plus. La jeune secrétaire provocante se nomme Olga Gretel, l'autre Gertrude Hansel. Et on va entendre là un passage où les deux femmes se crêpent le chignon, ce qui nécessitera une intervention musclée de M. Karl. Et c'est toujours Franck Sommelet qui nous fait cette lecture.
Vous me tapez sur le système à la fin !
Glapit Olga Gretel. Cri du lapin, de l'épervier, du renard, ou même d'un petit chien, tout cela était également vrai. Et Gertrude Hansel la fixait avec une insistance muette qui décuplait la rage de sa collègue.
« Mêlez-vous de vos affaires, espèce de sainte nitouche ! J'en ai assez de vos remarques ! Assez ! Assez !»
Les cris d'Olga se brisèrent dans un sanglot, et Gertrude sortit enfin de son éloquent silence pour asséner froidement « Vous n'êtes qu'une dévergondée !» C'était la première phrase qui était prononcée plutôt que crachée, et donc calmement prononcée, quoique claquant avec la netteté d'une gifle. Un silence d'après-bataille, ponctué par les sanglots d'Olga, tomba sur le secrétariat général. Gertrude s'était aussitôt remise au travail, secouant tristement la tête en signe de mépris, tandis que sa collègue s'essuyait les yeux en étouffant ses pleurs. On aurait pu s'attendre à un mouvement de sympathie vers la jeune secrétaire aguichante persécutée par une vieille secrétaire acariâtre, par simple réflexe esthétique, mais les directeurs et les principaux ne bronchaient pas. Ce conflit de travail d'apparence grotesque, la vieille contre la jeune, la belle contre la moche, la prude contre la dévergondée, la bien roulée contre la malfagotée, etc., probablement classique dans les bureaux du Monde, semblait les mettre au supplice. Barricadés derrière leur pupitre, ils se tournaient nerveusement vers le démédiateur. Tous imploraient son intervention. Tout le sommet d'agir. Il n'y couperait pas. C'était maintenant ou jamais. Car on ne le payait pas pour être un simple spectateur en cas de pugilat verbal, voire d'empoignade, car le conflit menaçait de dégénérer. Tiré de ses méditations sur le parfait équilibre de l'univers dont témoignaient petites et grandes comptabilités, M. Karl hésitait sur la conduite à tenir lorsque les événements prirent une tournure encore plus désagréable. Ravalant ses sanglots, Olga tapait maintenant rageusement sur son clavier avec une force exagérée qui rappelait le bon vieux temps des machines à écrire. C'était un mélange de colère et d'ironie. Oui, elle se moquait de sa collègue venue de cette époque où les secrétaires frappaient les touches avec énergie, ce dinosaure. Et Olga maugrait entre ses dents, provoquant des haussements d'épaule dédaigneux chez son ennemi. Sans une méditation urgente, une seconde explosion semblait garantie. L'irréparable programmé, constatait M. Karl, car elles étaient sur le point de se crêper le chignon, et ce ne serait pas aussi érotique que le combat de bébé contre CC dans les pétroleuses, pressentait-il. Il y aurait une hargne réaliste, des coups de griffe, des frappes aveugles. D'ô Jésus, implora-t-il, aidez-moi à trouver le chemin de la médiation et de l'apaisement. Il en était là de sa prière lorsque commença la valse des injures. « Vieille salope !» rugit Olga. « Petite garce !» lança l'autre. « Sale petite pute ! Allez exercer vos talents sur le trottoir ! Vous n'avez rien à faire ici ! Vous êtes une incapable, juste un cul hissé jusqu'au secrétariat !»« Vieille peau !» répliqua Olga. « Vieux cerveau, dactylotoque, tout dans les doigts et rien dans le ventre, une calamité !» Malgré sa répugnance à se mêler à un conflit aussi vulgaire et aussi sot, le médiateur prit son élan, visage tendu, et plongea dans l'inconnu en hurlant, cri du chien à la lune, à la mort, du loup avec les louves, « Cessez de faire les sottes !»
Merci de m'ouvrir le micro, Christophe et Séva. Je disais donc difficile de s'improviser médiateur lorsque ceux qui devraient se soumettre à la médiation se révèlent être des manipulateurs, comme peut l'être un auteur éventuellement vis-à-vis de ces personnages. Alors Jean-Bernard Vuillem, on ne va pas en dire plus sur les tribulations de ce monsieur Karl au cours de sa brève carrière de médiateur. On pourra éventuellement préciser, enfin laisser entendre que monsieur Karl trouvera véritablement sa place, non pas en tant que médiateur, mais plutôt qu'en tant que médiatisé. Voilà, je l'ai dit, mais je n'en dis pas plus, ce qui laisse imaginer plein de choses. Mais ce qui est aussi tout à fait remarquable dans ce texte, dans ce passage, et dans votre œuvre en général, c'est qu'il existe toujours chez vous un démiurge, quelque part, qui tire les ficelles. Et cela prend en effet, vous nous le disiez tout à l'heure, une dimension existentielle.
Oui, bien sûr, c'est tout ce qu'on ne peut pas nommer dans nos vies, qu'on cherche à nommer dans la littérature. C'est un essai sans fin. Enfin, il a une fin sûrement, oui. Il y a un moment où on écrit le dernier livre.
Sans avoir forcément résolu la question qui parcourt tous les livres précédents.
Non, mais de l'avoir cerné d'une manière sérieuse, comme il convient pour un écrivain.
On aurait pu imaginer aussi, Jean-Bernard Vuillem, que ce roman, ce dernier roman qui n'est pas l'ultime, précisons-le, Monsieur Karl et compagnie, soit une critique du monde de l'entreprise, Il y a quelque chose aussi de kafkaïen. On l'a dit à plusieurs reprises, comment trouver sa place dans une entreprise dont on ne comprend pas véritablement l'organigramme et la place qu'on y tient. Mais ce n'est de loin pas la priorité, enfin, le thème principal qu'on y trouve et qu'on y découvre.
Non, parce que si j'avais voulu écrire un livre qui soit une critique de la manière dont fonctionnent les entreprises, j'aurais écrit un autre livre, quoi, de toute évidence. Il y a un peu de la dimension de ça, parce que certainement que... Et puis c'est une entreprise, évidemment, qui travaille dans une certaine abstraction, je veux dire, qui travaille pas, qui n'est pas de l'industrie, l'assurance...
C'est l'industrie de service.
C'est une industrie de service, mais c'est quelque chose d'un peu abstrait, bien que tout le monde puisse comprendre à quoi sert une assurance. Mais on est dans l'univers de bureau. Mais bien sûr, ce livre n'est pas une critique du monde des entreprises, même si certainement qu'on peut reconnaître. Dans le fond, il y a un léger décalage. J'ai un fils qui travaille dans une compagnie d'assurance.
Vous lui avez demandé quelques renseignements.
Il l'a lu et j'ai cru d'emblée de mon devoir de lui dire que je ne me livrais pas du tout à une critique du monde des compagnies des assurances. Il en était convaincu en le lisant, mais il m'a dit que quand même, effectivement, il y avait dans le fond un léger décalage par rapport au fonctionnement réel des choses. Et les décalages, c'est aussi ce qui révèle. Quand on est dedans, on voit plus. Si on s'écarte un peu, on voit un peu mieux. Mais on voit un peu mieux comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne l'inconscient des gens, comment les gens entrent ou n'entrent pas dans leur rôle. Et ça ne concerne évidemment pas que l'entreprise, ça concerne bien d'autres domaines de la vie.
Les entreprises, les compagnies d'assurance sont extrêmement nombreuses en Suisse. Et peut-être que c'est aussi une sorte de critique amusée d'un travers helvétique,
oui,
l'assurance. Quelque part, la directrice des RH dit ceci, nous vendons du vent dans ce monde de tempête, le vent vaut de l'or.
Oui, c'est un peu ça, bien sûr. Ben, dans un monde comme le nôtre, la sécurité, l'assurance, c'est la sécurité. Donc il y a peut-être un léger sourire sur cette sécurité après laquelle on court tous et qui est si fragile, même en Suisse.
Merci infiniment Jean-Bernard Vihem de nous avoir accompagnés dans les méandres de votre imaginaire et plus particulièrement de ce roman. C'était vraiment un très très grand plaisir de vous recevoir ici en direct, en chair et en os. Je le dis parce que souvent nous recevons des auteurs en duplex depuis Paris le plus souvent. Là, c'était vraiment agréable de vous avoir sous la main. Je rappelle le titre de votre roman, Monsieur Karl et compagnie. Il a paru il y a quelques semaines aux éditions Zoé. Et puis merci à vous Franck Sommelet pour vos lectures, comme toujours extrêmement brillantes. Et puis au chapitre des remerciements, merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis à travers l'imaginaire de Jean-Bernard Vuillem. Rappelez-vous qu'Entre les lignes possède sa page Internet. Il vous est possible d'y trouver des liens bio et bibliographiques concernant nos invités et de réécouter ou télécharger nos émissions. Pour vous y rendre, vous tapez Entre les lignes, toutattaché.rsr.ch. Christophe Esseva a réalisé la mise en page de ces interlignes. Jeanne Corbeau, sa préparation en coulisses. Merci à tous les deux. Demain jeudi, Sylvie Tanette vous proposera un entretien avec l'auteur alémanique Martine Souter, qui a publié récemment aux éditions Bourgois le premier opus d'une série de romans policiers, son titre « Almen et les libellules ». Et le temps d'accueillir Yves Bron, bonjour.
Bonjour Jean-Marie Félix.
Tout à l'heure Dardar, un sommaire extrêmement dense.
Très très chargé, on a Pierre Lepori qui revient d'Art Basel, donc la foire d'art contemporain qui ouvre aujourd'hui ses portes au grand public. On aura une présentation de cette 42e édition. On va recevoir en duplex de Zurich François Berthoud qui est illustrateur de mode, même une grande référence en la matière. Il expose au musée du design jusqu'au mois d'octobre. C'est vraiment l'occasion de découvrir un univers que personnellement je ne connaissais pas avant cette émission. Et puis on va également faire un retour critique assez attendu. Il s'agit de Tramway, Warlikowski, Wajdi Mouawad, Isabelle Huppert sur la scène du BFM à Genève. Et donc Marie-Pierre Jeunecamp nous propose son billet critique. Donc beaucoup de choses à entendre dans Dardar dans quelques instants.
Dardar, ce sera après les informations de midi. Pour l'heure, il est exactement midi et vous écoutez Radio Suisse Romande, espace 2.